aux quatre murs. Des pilules, des piqûres. Ça va durer des mois. La folie comme seule loi. Il faudra que ton angoisse disparaisse si se passe. Voilà l'intraveineux. La solution à queue.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste. Et c'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie, comme les mercredis matins de 9h30 à 10h30. Alors pour soutenir la radio, vous pouvez remplir le bon de souscription sur radio-libertaire.org. Ou net, je ne sais plus. Et là, eh bien, vous pouvez contribuer. À nous soutenir, tout simplement. Et pour nous écrire, c'est l'émission L'Entonnoir à la librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot, 75 011 Paris. Alors, aujourd'hui, je vous propose d'entendre la bande-son d'un film, un film d'une heure, qui s'intitule « L'âme de fond ».« L'âme de fond », c'est le film très réussi, je dirais, artistiquement parlant, de Perrine Michel. Un film réalisé par Perrine Michel, écrit par Perrine Michel, et toute l'image est d'elle aussi, ainsi que le son accompagné de Renaud Michel. Voilà, et la production, c'est l'association Hors Saison. Enfin, la boîte de prod s'appelle Hors Saison. Et voici par exemple le résumé. Un jour, je comprends que ma famille est victime d'une machination politique obligeant les adultes à maltraiter les enfants. En tant que témoin, on m'incruste un micro dans la gencive, puis on m'enferme. Après la mort de son père, Perrine Michel retourne visiter la maison familiale que sa mère s'apprête à vendre. Les souvenirs d'enfance cèdent bientôt la place à un sentiment d'oppression et le parquet qui craque laisse échapper un terrible secret. Victime d'une bouffée délirante, internée à l'hôpital psychiatrique, la narratrice s'engage alors dans un parcours de rémission qui aboutit à l'écriture du film. Objet déroutant, l'âme de fond reconstitue le passage de la réalisatrice à travers un épisode psychotique. Passage qui s'amorce de manière insensible et pourtant radicale. Les traumatismes de l'enfance réveillés par la mort du père et la vente de la maison se changent en syndrome de persécution. La narratrice imagine victime d'un complot politique, une machination de l'extrême droite forçant les hommes de sa famille à maltraiter leurs enfants. Les passagers du métro, les regards sur les affiches, les émissions de radio, tout semble la désigner, la surveiller. Les psychiatres à leur tour cherchent à étouffer la vérité. Et pourtant, tout doucement, arrive la fin du délire. Dans ce processus de guérison, le film joue une fonction cathartique. Pour témoigner de l'état de trouble de la narratrice, il emprunte les formes les plus poétiques, passant du flou à la photographie, faisant appel à l'animation et au collage. Alors, petite conclusion, celle qui se faisait des films parvient à se sauver par le cinéma. Voilà, c'est un texte de Sylvain Maestragi. Alors, on n'aura pas l'image, et pourtant, c'est vrai qu'on rate pas mal en ratant l'image, mais le son aussi est très bien monté, et... Donc, je vous propose d'écouter, en quelque sorte, ce film. Alors, il y a plusieurs parties, un peu comme l'a indiqué l'introduction, c'est-à-dire d'abord la maison familiale, le retour à la maison familiale devenue inoccupée, donc l'évocation de l'enfance, avec cette période de la libération sexuelle des années 70 qui n'a pas causé que des bonheurs. Et puis l'adolescence, la ville, le métro, et puis les bouffées délirantes, et enfin l'HP. Voilà, alors on écoute maintenant cette lame de fond de Perrine Michel. Donc dans quelques secondes, le temps évidemment de la placer sur le lecteur, notre logiciel.
Jamais vu, tu cours trop, c'est défendu, tu prends chaud et tu t'enrhumes, tu veux sauter, tu veux sauter dans la lune, c'est beaucoup trop haut. Tu es tombé sur le dos et tu t'es fait du bobo. Ah mon Dieu, te voilà beau avec ta bosse sur le dos. Fais do 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 do, petit zébu. J'entends ton gros cœur qui bat, mets ta tête entre mes bras. Fais dodo, ne pleure plus. Reste donc un peu tranquille et derrière tes longs cils, ferme tes yeux d'imbécile.
Regarde, il y a un rouge-gorge. Tu vois? Là, à ma droite. C'est un rouge-gorge. T'as vu? Tu l'as vu de face?
Non, il est tout doux.
C'est un peu dur.
Il y a encore des comportes
pour toi?
Oui.
Le micro ou la vente?
La vente. Et c'est bizarre que ça soit aussi fort, parce qu'en fait, le lien, il est resté très fort avec l'endroit.
On a vendu la maison en hiver. Peut-être que le lien est très fort parce qu'on vend.
Oui, aussi, oui.
Mon père est mort un week-end de Pâques, j'avais 25 ans, et j'ai cru que la vente m'allégerait.
Oui, si jamais ça avait été vendu avant la mort de papa, on n'aurait probablement pas mis ses cendres au pied du chêne. C'est bien qu'on soit venu avec maman.
C'était une bonne idée, en fait. L'été, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de passages.
Ah oui, c'était vraiment de la sacrée maison vivante, quoi.
Et aussi pendant les vendanges. Moi, je me souviens pas de tant de monde que ça, en fait, enfant.
Tu vois des photos, il y a énormément de monde. Et puis tu vois tout le monde, la guitare, le stage de guitare ici.
Des stages de guitare?
Oui. Ça te dit rien?
Non. C'est beau, ce brouillard là.
M'attendez, je vais mettre des gants. J'ai trop froid aux mains.
C'est bizarre, quand on regarde cette maison, on ne prend pas la mesure du travail qu'on y a fait. Mmh. C'est comme si ça ne se voyait pas.
Ouais, que... ça doit être très très dur. Toute cette énergie pour une maison qui n'est pas vivable vraiment. Oui, quoi. Oui.
C'était un lieu où les gens se sentaient bien, je crois.
C'est quand même meilleur dedans. Oui.
Mais pour moi, c'était un climat austère. Une terre escarpée.
Et là, quand on est rentré, c'était de la terre battue.
Il y avait des embûches, des pièges.
Voilà, c'est des campings. Hein.
Moi, j'avais mal au ventre et les pieds gelés.
Parce qu'en fait, on montait par l'escalier et là, c'était un trou. Et du coup, on mettait des planches pour pas que vous tombiez dans le trou.
Surtout moi, parce que Perrine...
J'ai grandi dans les coulisses.
Et il courait pas trop.
J'avais toujours de nouvelles idées de refuge. Je restais tapis jusqu'à ce qu'on me déniche.
Ça me faisait très peur.
Ah oui ? Alors c'est nous qui avons construit ça, et moi j'avais dit en construisant, hein, faisons un placard sous l'escalier, quoi, ça va être pratique et tout. Et ça vous faisait peur.
Cette pièce, elle n'était pas habitée quand j'étais enfant. C'était une pièce qui était pour moi très poussiéreuse, très encombrée et très sombre. Elle me faisait peur parce que, après avoir tué le cochon, on faisait sécher en rondognon les saucisses qui devaient faire un peu de mouvement dans la pièce.
Ah oui, c'est vrai, tu as raison.
Clac, clac, clac.
Ça avait dû s'écrouler, hein, je pense.
On me disait, tu fais tes yeux noirs.
On a dû brûler la charpente.
Je fermais les yeux très fort.
C'est con qu'on ait jamais su, là,
des taches fluorescentes apparaissaient devant moi, dans le noir. Je me demandais si c'était comme ça, la mort. Des figures colorées qu'on pouvait s'inventer.
Ah oui, c'est vrai, tu as
raison. Clac, clac, clac. Et là, derrière, moi, je me souviens moi, des poules, et puis je me souviens de Perrine, et puis son élevage de Concrela. Là, là, c'était là.
Si, si, t'as élevé des cafards, absolument, dans un sac plastique.
Tu te souviens pas de ça ?
Moi, je me souviens que toi, t'étais fan des têtards.
Oui, du coup, toi, t'étais jalouse et t'avais fait un élevage de cafards, ça puait, c'est pas possible. Tu te souviens pas de ça, là ?
Je rêvais d'être un géant qui n'aurait peur de rien.
C'est vrai, c'était poulailler.
Non, je me sentais écrasée par un gros caillou.
Il y a des photos, et je sais plus sur quelle photo.
J'aurais voulu laisser ce poids glisser tout doucement sur le sol et partir sur la pointe des pieds. Tous les soirs, mon frère arrivait après moi quand je me lavais les dents et il me faisait peur. Il faisait simplement « Waouh !» Et je hurlais, je pleurais tous les soirs. Je devais aimer ça.
Tu te souviens quand on a tué la truie et que tu m'as fait la séance infernale, qu'il a fallu que je te conduise chez la voisine pendant qu'on...
Dans cette ancienne cuisine, je crois me souvenir qu'on me lavait dans l'évier, dans une bassine. Et je revois ma mère aussi se laver dans l'évier et partir en courant à l'arrivée du facteur. Mais c'est peut-être juste quelque chose qu'on m'a raconté, mais dont je ne me souviens pas moi-même. J'admirais la moustache de mon père. Je me souviens du jour où il se l'est rasé dans la cuisine. Il avait juste dit « je prépare une surprise ». Mais une fois sans moustache, je ne le reconnaissais pas. Je reconnaissais juste sa voix qui me réconfortait. Il me racontait l'histoire du vilain petit canard, puis il me disait « ça parle de nous ». Je ne comprenais pas très bien. Est-ce que le vilain petit canard avait eu une fille ?
Ok, Qu'est-ce qu'il faisait froid dans cette maison l'hiver? C'était terrible. C'est vrai que ça change tout sans frein. C'est beaucoup mieux. Ça fermait un peu trop, je trouve, le paysage.
Ma mère était sage-femme.
Quand tu penses que c'est moi qui ai planté ces...
Je me souviens de la période où elle distribuait des pinces à cordon ombilical à toute la famille.
L'arbre de péril.
On les utilisait en porte-clés. Je ne retenais que les histoires sordides de ses patientes.
Quel bel endroit, c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir garder ça. C'est vraiment... C'est vraiment superbe, cet endroit.
Ça fait partie de l'histoire collective.
Mmh.
C'est pour ça que les copains, ils ont du mal aussi.
Ah ben oui.
Années 80, une époque. J'étais imbibée du combat de ma mère. Elle ouvrait avant moi les cadeaux que les autres m'offraient. Les Barbies finissaient à la poubelle. Mes parents aimaient collectionner les conquêtes et s'envoyer en l'air.
Alors, comme ils disaient. Surtout, l'idée folle.
Ils étaient d'accord pour pratiquer l'amour libre.
C'était d'avoir un endroit où on puisse bronzer à poil.
Finalement, qui était qui? Qui a adopté qui? Pourquoi mon frère était blond dans cette famille de bruns?
Oui, ça fermait pas. Peut-être on avait mis un rideau, je me souviens plus.
Moi, on m'appelait Pomme, Pomme-Pomme, avec mes bonnes joues rouges. Après tout, j'étais peut-être la fille du facteur ou la sœur du voisin. Et Julie, ma sœur de lait, qui avait bu au sein de ma mère, alors que moi, j'avais refusé de boire au sein de la sienne. Ma chère amie d'enfance. Était-elle la sœur de mon frère, avec ses cheveux blonds?
Les craquements! Qu'est-ce que cette pièce était lumineuse?
Quand j'étais petite, je me réveillais toujours avant tout le monde.
Dis donc, qu'est-ce que ça craque?
Et je savais exactement où est-ce qu'il fallait marcher pour pas que le parquet craque.
Ça craquait pas comme ça quand vous étiez pas à ce point.
Ma mère avait peint un arbre, un chêne peut-être, dans la chambre qui faisait tout le tour de la pièce. Les branchages s'étalaient le long des murs. Depuis mon lit, je voyais le chêne par la fenêtre.
Ça vous a fait un bel espace, enfant?
Oui, moi je jouais à la maîtresse avec Julie.
Oui, oui. Alors que tu détestais l'école.
Je rêvais d'un monde cloisonné. Le frère, la sœur. Le chêne, le frêne, les troncs, les trous, la gauche, la droite, les portes fermées, les portes ouvertes.
Mais des fois, on ne pouvait pas vous faire sortir, vous étiez collés dedans. Et tu te souviens quand tu te retrouvais dans le lit, Clément?
Fermez la porte.
Combien de fois j'ai retrouvé Perrine dans ton lit? Combien de matins je l'ai retrouvée collée à toi? Et tu te souviens de la fois où on a trouvé un œuf dans ton lit? Que la poule était venue pondre. Vous êtes où? Vous êtes dans les cuves?
Quand j'ai voulu me faire trouer les oreilles, ma mère m'a dit non. Car c'était une mutilation du corps des femmes. Peut-être une sorte d'excision. Je me souviens de ce cours d'anatomie. Ma mère avait un trou et avec un petit miroir, elle m'a montré mon propre sexe. J'avais aussi un trou, mais le mien était rose. Je préférais avoir un trou rose qu'un trou noir. Et rester enfant. Je grouillais d'oxure dans ma vulve. Ma mère prenait une lampe de poche et un coton-tige pour me les enlever. Une nuit, je me souviens, mes parents avaient été à une fête. Et moi, je dormais dans un lit chez ces gens. Qui dormait à côté de moi, je ne me souviens plus, peut-être mon frère. Et elle m'a enlevé les oxures dans ce lit qui n'était pas le mien, dans cette maison qui n'était pas la mienne. Et puis, elle a montré à d'autres personnes comment elle faisait. Je soulève le couvercle de la marmite. Il y a deux gros morceaux. Mais il ne faut pas oublier les petits, ceux qui se cachent dans la sauce ou qui collent au fond. Récurer la casserole familiale entièrement et la mettre à égoutter. Devant le puits, il y avait plein d'orties. Comme ça, les parents étaient sûrs qu'on n'approche pas trop. Je faisais beaucoup de cauchemars. Et puis surtout, j'ai grandi avec l'idée qu'il y avait le loup dans le puits. Et je devais affronter le noir. Donc de fait, j'approchais pas la chambre de mes parents. En tout cas, il est sacrément profond. Ma mère me réconfortait et me raccompagnait dans mon lit. Mon père se réveillait pas. Il se contentait de m'accueillir sous la couette.
Je vais jeter quelque chose.
Je pouvais me blottir contre lui, protégé de mes démons. Un jour, ma mère m'a dit « Va dans le lit de ton frère ». Mon frère était un peu
difficile de parler de ce chêne
sur de lui,
tellement majestueux, cultivé, impressionnant, écrasant. Dominant, à faire peut-être trop d'ombre.
Mais dans l'intimité de nos nuits, je reprenais le dessus.
Un peu trop haut.
Il n'arrivait pas à planter.
Pour fabriquer des cabanes facilement.
Pourtant, nous avions eu.
Je jouais dans le frêne et le chêne.
Le castor en peluche,
dont je me protégeais.
Je me sentais. Couvé par les tentacules d'une pieuvre.
Il y a des nids le long des poutres.
J'ai grandi avec un œuf pourri dans mon ventre, une grossesse extra-utérine, une douleur lancinante.
Ici, on est dans la pièce qui donne accès aux cuves. Et je me souviens que mon père y passait beaucoup de temps.
De bonne heure, je m'amusais seule dans ma chambre. Mon père s'est levé la gueule en farine.
Je me revois en fait venir le trouver, descendre le long du jardin. Faire coulisser la porte en quoi ? Avec un bruit particulier. Et je me souviens
Papa, ça veut dire quoi faire l'amour ?
Je me souviens de venir le voir pour.
Mon père s'est assis sur le parquet.
À propos de mes tables de multiplication.
Je me suis appuyée sur son épaule en regardant par la fenêtre.
En tout cas, je me souviens que j'étais descendue avec un cahier bleu de
brouillon.
Et au dos, il y avait les tables de multiplication.
Est-ce qu'on a le droit de faire ça ? J'ai demandé. Oui, mais c'est un secret entre nous. Et il m'a dit, mais regarde, elles sont au dos, en goutte de sang perlé. Les tables de multiplication, au dos du cahier imprimé.
Le long de ma cuisse. Et tout de suite, je me suis dit que je veux peut-être tricher pour les contrôles.
Voilà, j'avais fait l'amour. J'avais 6 ans.
En tout cas, aujourd'hui, je ne sais toujours pas mes tables de multiplication.
J'étais fière.
Il y avait eu une énorme tempête. Et j'étais allée ramasser le linge avec mes parents. Tous les mercredis, mon grand-père maternel nous emmenait, mon frère et moi, à la piscine.
Dans le jardin, parce que ça...
Avant chaque cours de natation...
C'était l'aventure, tellement il y avait de vent.
J'avais des fourmillements dans les paumes des mains. J'ai lu un après-midi.
Et je... revois le hangar de la maison s'effondrer.
Un ray de lumière a pénétré dans la pièce.
Lentement et en silence.
Le lit-camp qui était là pour le mettre au soleil.
Comme dans un film muet.
Je me suis assoupie.
Et mon... Ce qui était très impressionnant, c'est qu'il n'y avait pas de son.
Il était à contre-jour. Il me faisait de l'ombre.
Et le hangar, là, pouf, devant moi, s'est effondré.
Dans sa grange, il y avait sur tout un mur des outils suspendus à des crochets. Il m'a dit, viens mettre ta main dans les taux. Il serrait fort les taux sur ma main.
Là, il y avait un énorme pressoir qui m'impressionnait. J'adorais regarder le raisin s'écraser. Il y avait des bottes et des bottes et des bottes de paille qui étaient entreposées dans le fond, jusqu'au plafond, et on jouait dedans.
Je suis allée coucher chez Julie. Impossible de dormir, je voulais la dépuceler avec un couteau.
Mais c'est pareil, j'en ai un souvenir,
un peu de
malaise ou de danger, peut-être parce que simplement, dans d'autres périodes, c'était un lieu...
Le drap était taché, j'avais honte.
Auquel on n'avait pas accès.
Elle m'a répondu, toi ou mon père, je préfère que ce soit toi. Marcin se brille les ferrés sur le mur. Nous observer. Mon grand-père maternel. Mon grand-père m'a attrapé, m'a baissé le short, m'a dit, elle le fait bien avec son père, elle peut le faire avec son grand-père. Il m'a prise dans sa chambre, j'étais une poupée de chiffon. Mon père, tout à coup, est rentré dans la chambre. Il a mis des coups de couteau dans la poitrine de mon grand-père. Et je me suis enfuie à travers les vignes. Toute cette communauté baba cool, chaque homme, chaque femme, a surpris, abusé, violé. De la crèche parentale, la garde collective, on est tous passés. Au milieu des tartines de fromage de chèvre bio, ça dérape. La salle de bain, ma mère me séchait énergiquement les cheveux et m'a dit « Pom pom, tu comprendras tout ça quand tu seras plus grande. » J'étais ensuite assise sur les toilettes, mes pieds se balançaient. Je me suis demandé à quel âge on était grand, je décidais que ce serait à 30 ans. À 30 ans, je comprendrais.
Julie m'a dit qu'il fallait que je voie le médecin de famille pour lui dire tout ce qui s'était passé. Nous avons pris pour ce rendez-vous une culotte blanche et nous y avons versé du ketchup en guise de sang. Le médecin m'a placée en famille d'accueil. Je leur ai expliqué qu'un jour je ferai un film sur ce que j'avais vécu. Il faisait froid et nuit dehors. Le père m'a dit, attention, l'inceste et le viol, c'est tabou. C'est le seul souvenir que j'ai de cette famille d'accueil. Je me souviens pas du reste.
Mesdames et messieurs, il est 14h30. Avant de descendre, je vous demande de vous y
Aujourd'hui, je suis adulte et je comprends enfin. Depuis mon enfance, je suis épiée et suivie, en permanence sous haute surveillance. Qui m'espionne. Et engagé contre la guerre d'Algérie. Mes parents ont été militants en 68. Et c'est à cause de ce passé familial, Hitler, l'extrême droite, les sarkozystes obligent les hommes de ma famille à violer les enfants. Sinon, ils sont assassinés. Mais c'est pareil pour plein d'autres gens dans le monde. Ce sont les culottes des victimes qui sont les pièces à conviction. Les deux pays sont drogués des biberons. Comme ça, ils se souviennent de rien. Dans un trou noir. Là, je marche. Je marche et je suis condamnée à ne jamais m'arrêter. Si je m'immobilise, j'explose. Et je déclenche la troisième guerre mondiale.
Comme ça, il y a 10 minutes.
Je sens que les gens autour de moi font semblant de ne pas me reconnaître. Tous ceux qui votent à droite gardent le silence. Je soupçonne aussi les blondes décolorées, les propriétaires de caniches. Alliés.
qui parlent de vacances, utilisent des béquilles, portent une capuche ou lisent le canard enchaîné. Il y a toujours un pour me faire comprendre quand il y a un indique dans la rame de métro. Je descends aussitôt en le remerciant son complice. Je suis obsédée par ce qu'il y a écrit sur les paquets de cigarettes. Fumer tue. Un de mes proches disparaît. Alors je suis comme terrassée par des fourmillements. Dans les pieds, dans les mains surtout. Qui font des fausses couches m'obsèdent. Elles sont en danger. Il faut que je les protège. Je sais comment résister. Je fais des images pour emmagasiner des preuves, des traces. Je dégaine. J'arme, je vise, je shoot, je mitraille. Je m'aperçois que les objets se déplacent, les choses disparaissent. Je ne trouve plus mes briquets ni mes boîtes d'allumettes, alors j'allume mes cigarettes avec le grille-pain. Je m'inquiète pour mes amis. J'aimerais bien rencontrer un homme qui comprendrait. Mais je voudrais pas être inquiète pour lui, il faudrait pas qu'il soit violenté. Je crois que c'est le jour où j'ai fait grève de mon corps que le complot s'est déclenché.
Vous allez découvrir que votre propre père, lui aussi, à votre insu, s'est engagé dans la résistance.
Quand ma famille appelle, les avions se succèdent au-dessus de chez moi. Je ne leur parle pas de tout ça, les inquiéterait, et puis ils me diraient que je me fais des films.
On passait des heures ensemble dans sa salle de cinéma. Il avait une salle privée.
Je crois que j'ai une mémoire qui invente des choses. Je ne sais plus ce qui est vrai, ce qui est faux.
J'ai cru que je ne me remettrais jamais, mais tout ça m'a...
Je voudrais me greffer un bouton on-off dans le cerveau. C'est pas croyable tous ces travaux, toujours des travaux. Dès que j'enregistre quelque chose, des travaux commencent. radio qui me relie au monde extérieur. Je ne sais pas comment stopper immédiatement les guerres, les tortures, les persécutions. J'écoute souvent France Culture et je me suis rendu compte que France Culture régulièrement parle de moi. Je ne sais pas très bien comment ça fonctionne. Je suppose que quand j'allume le poste de radio, il y a une loupiote qui s'allume dans les studios pour leur dire que je suis connectée. Il se passe quelque chose de nouveau chez moi. Avec toutes les nouvelles technologies, je ne sais pas comment ils font, mais... maintenant, il y a des petites caméras un peu partout chez moi. Dans mes plantes. Dans ma cafetière. Dans mon réveil. Il faudrait que je change de lunettes. Je crois qu'il y a un micro à l'intérieur. J'ai eu une dent de lait jusqu'à mes 30 ans, puis j'ai décidé que j'étais adulte et j'ai commencé à la faire bouger, elle est tombée. J'ai dû faire un implant. Pendant l'opération chirurgicale, le dentiste m'a incrusté un micro. Ma voix, tous les sons de mon corps sont enregistrés au QG de l'extrême droite. Pourtant, je ne fais rien d'illégal. J'ai arrêté de fumer des pétards. Je me masturbe un peu, c'est tout. Dormais et il y avait des voix dans la cour et j'ai fait un rêve où mes pensées étaient contrôlées. Elles apparaissaient sur un grand écran dans un bureau. Il y avait des femmes en talons, des hommes en cravate assis autour d'une table. Ils regardaient, ils analysaient les pensées, ils prenaient des notes. Ce rêve m'a beaucoup troublée parce que la seule chose qui m'appartient encore était dévoilée. Et je me suis réveillée en sursaut. Il y avait toujours les voix dans la cour et je ne savais plus très bien si ce rêve avait lui-même été contrôlé.
Thank you. soit un stagie de 700,
alors,
okay.
Un tertiaire de 25, un 25, deux dépacos de 500, un éthanol 50,
un sorgan 400,
un 40,
un tertiaire 25,
2 mg,
deux Seresta 50,
un dominosine 100,
un Zyprexa de Gotal 10 le soir, deux tertiaires 25,
un Rivotril 2 mg,
donc 2 mg de Risperdal, et pour la nuit, un Imovane, un Valium 10, un Eptamil,
un Parkinan LP5,
le soir, et un de Pantol.
Qu'est-ce qu'on en consomme?
Donc un Parkinan 5.
Et 50 de terre.
5 le soir. Un Arcan 10.
Ah ouais, attends, il a la mixture. En fait.
Un Gamictal 50. Ouais. Et deux Xanax 0,5. Un Dépaco 500.
Ah bon?
Ouais.
Vous voulez quelque chose, hein? Un Doliprane. Qu'est-ce qui se passe?
Je ne suis plus maîtresse ni de mon corps ni de mes choix. Je parle, j'insulte, j'aboie, je me débat. Je suis délaissée, joutée, parfois enfermée. On m'endort à coups de piqûre. On tente ensuite de me réveiller avec des claques. Il est quelle heure?
Vous avez pris les médicaments ?
D'abord les traitements, et après on voit le reste.
Les hôpitaux psychiatriques sont des lieux d'expérimentation et de torture mis en place par le gouvernement. Il y a eu des viols, de la torture, des meurtres.
Non, non, c'est pas un espace pour toi là-bas.
Non, on est lundi aujourd'hui.
Jeune femme de 31 ans présentant un automatisme mental dont le début est encore difficile à préciser.
Patiente présentant une symptomatologie psychotique aiguë d'évolution récente avec insomnie,
perplexité anxieuse, dissociation idéo-affective, comportement impulsif,
versatilité,
idées délirantes de persécution, hallucinations acoustico-verbales et visuelles,
idées de référence avec perplexité,
étrangeté et éléments délirants persécutifs de préjudice subi.
Hospitalisation justifiée pour mise en place.
Hospitalisation justifiée pour mise en place d'un traitement.
Patiente réticente, voire opposante, ayant refusé activement le traitement à son arrivée.
Ça fait longtemps qu'on me drogue, ça suffit maintenant, je me rebelle. Je balance par terre les gobelets, les pilules. À chaque fois, cadre Sarkozy ne débarque dans ma chambre. Il me maintient sur le lit, il me déshabille, il me fout une piqûre dans les fesses. Je vais s'injurer avant de sombrer dans le néant. Le pomme est nuit.
Elle, femme, et lui, homme, parfois j'ai l'impression qu'ils me veulent du mal. Parce qu'il y a 20 ou 25 ans de ça, en fait, j'étais battue par une famille. Ils appelaient ça la branlée thérapeutique.
Ça fait mal. Je vérifie que l'on ne m'a pas excisé. Peut-être m'a-t-on ligaturé les trompes. Que me font-ils pour tout le monde?
Vous
n'aimez
pas qu'on vous touche?
Une nuit, je réussis à ramper vers la porte. J'ai envie d'aller aux toilettes. Il est quelle heure? Je suis enfermée dans ma chambre, alors je me pisse dessus. Je ne pense pas enlever mon pantalon. C'est chaud. Je reprends conscience de mon corps. Plusieurs jours que je suis là, personne ne m'a proposé de faire une toilette. Je commence à puer et ça me réveille. Ma première douche est une victoire.
Madame Michel, votre traitement, votre castor.
Madame Mitchell. Pardon. Vous avez pris votre chiffre.
Steve.
C'est déjà un ancien poulet qui m'a brûlé du
cerveau. Je ne sais pas si ma tante va m'en avenir, j'ai un effet inavouable.
Je n'ai aucun contact avec mes proches. Ils ont été jetés en prison ou ont été tués. Moi, je vais rester cloîtrée dans cet hôpital jusqu'à ma mort. Odeurs nauséabondes, des corps décadis, cafards qui pullulent dans les douches.
Perplexité, méconnaissance des troubles, refus des soins à maintenir.
Vous restez avec nous, là. Venez vous asseoir, s'il vous plaît. Ça fait partie du règlement, même si vous ne mangez pas.
Le thème de micro est évoqué sans qu'on retrouve la moindre expérience d'automatisme mental caractérisé. Ce thème est relié par la patiente à la forme de l'objet, évoquant certaines boules de Noël.
Le psychiatre me demande pourquoi c'est moi qui dois sauver le monde. Il me dit que c'est courant de se croire la victime d'un complot. Mais pour moi, c'est différent. Je suis réellement missionnée pour la paix.
J'espère que tout se fera pour une boîte.
Ma mère m'envoie des œufs de Pâques que je distribue aux autres de peur d'être empoisonnée. À qui se fier?
Tu m'entends? Oui ou non?
Un camarade du contre-pouvoir entre dans ma chambre. Il est d'origine malienne. Il a un fort accent. Il se présente comme aide-soignant. Il me porte un plateau avec un petit déjeuner, m'aide à me déplacer du lit à la table et me dit « C'est important de manger. » Je lui dis que la pression est très forte, n'est-ce pas? Il hoche la tête.
Sédation des intuitions anxieuses psychotiques et stabilisation de l'humeur sous traitement, autorisé à sortir en promenade de 14 à 15 heures.
Je
crois que je suis perdue. Je me dirige toujours vers le soleil. En tout cas, personne n'a l'idée de faire du footing. J'en fais plus depuis qu'on m'a dit que c'était interdit. Ça serait bien que je vive au moins jusqu'à 52 ans. L'âge de mon père quand il est mort. Je suis juive. Mais personne ne le sait.
Psychotique apparaît comme s'étant déclenché récemment et s'étant montré résolutif sous traitement neuroleptique.
Au téléphone, ma mère me dit qu'elle ressasse mon enfance, qu'il y avait beaucoup de passages l'été à la maison et qu'elle se demande si quelqu'un m'aurait abusé.
Se marier avec moi et faire des gosses.
Non, on est tous pareils.
Ah oui, le bouc. Et comment il s'appelle le bouc?
Oui, m'apprécier, mais de lui dire je t'aime, ça se dit pas.
Je lui ai dit je t'aime.
Pas aujourd'hui.
Oui, pas aujourd'hui.
Hier. Voilà.
Je suis enfermée avec tous les intermittents du spectacle qui sont shootés au Médoc.
Ça veut dire quoi, bon vide ?
Je rencontre Chris qui se balance en permanence d'une jambe sur l'autre, effet secondaire d'un neuroleptique.
Il n'y a que le sexe qui compte.
Nous partageons une chambre quelque temps.
Tout avec sa main.
Je lui explique que je suis responsable de la crise financière, que mon corps est manipulé à distance, que je lutte avec mon esprit pour garder mon libre arbitre. Elle affirme que je ne vais pas mourir à l'hôpital et me conseille de coopérer. Si je prends mes médicaments et me tiens à carreau, j'ai plus de chances de sortir un jour.
Allez, que je lui gratte la tête.
Je suis ses conseils. Je me lave, je fais mon lit, je fais la queue comme tout le monde pour prendre mon traitement et je vais à la cantine.
Total, l'image d'un petit réveil à 4 heures.
Je le fais plus. Vous avez déjà dit tout à l'heure.
Je structure un discours cohérent et je fais ce qu'on attend de moi.
Alors, en même temps que tout le monde. Si, vous avez déjeuné, vous avez pris votre traitement. Hein.
Mon frère vient me voir. Il me dit la chance que j'ai d'avoir cette vue imprenable. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Les médicaments m'empêchent de me concentrer. Il m'assure que je n'ai pas de micro dans la gencive et que je n'ai jamais été placée en famille d'accueil. Il faut toujours qu'il sache maintenant.
On est le 10. On est le 10, on est le 9. On est le 9.
Oui, taisez-vous.
Quand est-ce que je sors?
Allez, vous sortez, s'il vous plaît.
Ça se passe bien, Karine?
Oui, c'est ton dernier jour.
J'étais en train de vivre quelque chose de démesuré et mortifiant. Et j'avais cette intuition aiguë que c'est le cinéma qui me sauverait.
Nous devons la mesure d'hospitalisation à la demande d'un
tiers. Sort stabilisé après 4 semaines de traitement pour commencer un atelier d'écriture documentaire sur sa bouffée délirante.
Anybody got a match?
Alors on vient d'entendre L'âme de fond de Perrine Michel, une création autobiographique ce film, si on veut le voir, c'est sur la toile et ça coûte entre 2 et 3 euros, c'est pas cher, parce que les images sont très belles aussi. Et pour finir, un commentaire une citation de C. Postic, directeur artistique des états généraux du film documentaire de Lussas, qui dit à propos de ce film: c'est un film impressionnant par son objet en lui-même trouble et violent, et par son écriture dont la maîtrise et la fantaisie déploient la complexité du film. C'est un film troublé et troublant, risqué et risquant, très engagé. C'est une audacieuse proposition et hypothèse de cinéma. Voilà, et ainsi se termine l'entonnoir pour aujourd'hui. Nous vous disons à la semaine prochaine.